Vous écoutez On lit pour vous.
L'avenir incertain des sites de consommation supervisés. Un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 25 juin 2025 dans le Franco. L'avenir des sites d'injection supervisés demeure en suspens en Alberta alors que le gouvernement continue le déploiement de sa nouvelle stratégie en matière de dépendance et de lutte contre la crise des opioïdes. Ce changement de cap, qui privilégie le rétablissement plutôt qu'un modèle axé sur la réduction des méfaits, suscite une inquiétude croissante chez les experts. Depuis l'arrivée au pouvoir du Parti conservateur uni, PCU, en 2019, la province a profondément revu son approche en matière de lutte à la dépendance. Ce repositionnement a notamment mené à la fermeture du site de consommation supervisé, SCS, de Red Deer au printemps 2025, ainsi qu'à celle de plusieurs autres centres au cours des dernières années. À Calgary, le seul site actif de la ville est lui aussi menacé de fermeture. Selon la docteure Ginetta Salvalaggio, professeure à l'Université de l'Alberta et spécialiste en médecine des toxicomanies, la trajectoire du gouvernement soulève de sérieuses préoccupations. Elle estime que plusieurs décisions politiques récentes, telles que la fermeture et le retrait du financement des SCS, s'appuient sur des données qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain. « Ça m'inquiète beaucoup, mais c'est la direction que l'on semble prendre », déplore-t-elle. L'argumentaire avancé par le gouvernement pour justifier la fermeture ou le non-financement des SCS repose en partie sur un rapport controversé publié en 2020 qui suggérait des liens entre les centres, la criminalité et le désordre social. Mais la docteure Salvalaggio remet aujourd'hui en question la validité de ce rapport, qualifiant ses fondements de pseudo-science. La politisation de ces enjeux a été manufacturée, dénonce-t-elle. Elle rappelle que les données probantes vont dans une toute autre direction. Les SCS permettent de réduire les surdoses mortelles et d'offrir un lieu sécuritaire pour les usagers, sous la supervision de professionnels. Ça sauve beaucoup de vies, ça ne cause pas de tort, insiste-t-elle. Holly Mathias, spécialiste en santé publique, partage cette analyse. Selon elle, aucune donnée probante ne démontre que les centres de consommation entraînent une hausse de la criminalité. C'est tout simplement faux, dit-elle. Elle s'inquiète également des nouvelles mesures mises en place par la province, dont la Compassionate Intervention Act, loi qui autorise désormais le traitement involontaire des adultes et des jeunes souffrant de dépendance. On n'a pas de preuves que ça fonctionne. Le plan du gouvernement est controversé au regard des connaissances en santé publique. C'est important de comprendre la science, souligne-t-elle. Le SCS de Lethbridge, autrefois le plus achalandé en Amérique du Nord, a fermé ses portes en août 2020. Cette décision a fait suite à un audit provincial qui a révélé des irrégularités financières au sein de l'organisme Arches, qui gérait le site. Le rapport faisait état de dépenses injustifiées et d'un manque de transparence. Cependant, plusieurs experts et intervenants de première ligne y ont vu une décision politique, symptomatique du virage de l'Alberta contre la réduction des méfaits. Le financement public a été retiré malgré l'absence d'accusations criminelles. Des mythes qui persistent. Certaines idées reçues au sujet des SCS continuent d'alimenter le débat public. À Calgary, un sondage mené par City News en septembre 2024 révélait que 52% des citoyens souhaitaient la fermeture du site local. Il y a une perception négative des centres de consommation. Par exemple, j'ai déjà entendu des gens dire que les sites distribuent de la drogue, ce qui est totalement faux, ajoute Holly Mathias. Loin d'atténuer les enjeux, la fermeture des centres pourrait au contraire aggraver la situation, affirme-t-elle. On risque de voir davantage de gens consommer dans des lieux publics. Les communautés pourraient s'inquiéter du désordre ou de la visibilité accrue de ces personnes dans les rues, prévient-elle. sans compter les impacts sur les consommateurs eux-mêmes qui sont également préoccupants. La disparition des sites signifie, entre autres, une perte d'accès au matériel de consommation stérile essentiel pour prévenir la transmission de maladies comme le VIH ou l'hépatite C. On peut imaginer que les effets positifs associés au SCS disparaîtront si on les ferme et qu'il y aura sans doute davantage de drames liés à la consommation, observe Roman Close du Réseau canadien d'infotraitement SIDA, CATI. Entre 2017 et juin 2023, rappelle-t-elle, plus de 49 000 surdoses accidentelles ont été traitées dans ces centres, qui ont aussi permis plus de 250 000 référencements vers des services essentiels de santé mentale, d'aide alimentaire ou de logement. Des soins de base, comme le traitement de plaies, ont également été prodigués sur place, évitant d'engorger les urgences. Au total, 360 000 Canadiens ont visité un centre de consommation supervisé à 4,3 millions de reprises. Ce chiffre est énorme. Il démontre clairement le besoin, conclut-elle. Opinion divisée selon les provinces. Un sondage publié en mai et mené pour le compte du CATI montre que 53 % des Canadiens appuient les programmes de réduction des méfaits, tandis que 19 % s'y opposent. La province albertaine est cependant celle qui supporte le moins ces initiatives avec 47 % d'approbation et 25 % d'opposition. Cet écart est marqué par rapport à d'autres provinces comme le Québec, 62 % contre 11 %. Ce qu'il faut retenir de ces données, c'est que la proportion qui est pour la réduction des méfaits est plus grande que ceux qui s'y opposent, insiste Roman Close. Vous écoutez « L'avenir incertain des sites de consommation supervisés », un texte de Gabriel Audet-Michaud paru le 25 juin 2025 dans le Franco. Changement de paradigme. De son côté, le gouvernement continue de défendre une approche axée sur le rétablissement. À Red Deer, la fermeture du site de consommation supervisée s'inscrit dans cette logique, explique Hunter Barry, ex-attaché de presse du ministère de la Santé et des Dépendances, dirigé par Rick Wilson depuis le remaniement ministériel de la mi-mai. Cette décision a été initiée par le conseil municipal, qui a voté en faveur du démantèlement en début d'année 2024. En réponse, une enveloppe de 3,4 millions de dollars a été annoncée pour renforcer la capacité des centres de désintoxication, élargir l'accès à la médecine des dépendances et mettre en place des équipes d'intervention en cas de surdose, écrit-il dans un échange de courriel avec la rédaction. D'autres mesures de rétablissement ont également été déployées dans la région, notamment l'ouverture d'une unité thérapeutique au centre de détention de Red Deer, le financement public de 20 lits au Red Deer Dream Center, ainsi que la mise sur pied d'une communauté de rétablissement de 75 places. À Calgary, l'avenir du centre Sheldon-Shumir reste, quant à lui, incertain, mais tout laisse croire à une fermeture imminente. En mars, le ministre de l'époque, Dan Williams, exprimait son intention d'implanter un modèle semblable à celui de Red Deer dans la métropole albertaine. « Je ne souhaite pas voir de multiples sites de surdose dans la ville, ni déménager le centre actuel. J'aimerais créer un partenariat avec la ville pour transitionner des sites de consommation vers des centres de rétablissement », déclarait-il. La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, affirme pourtant ne pas avoir reçu de nouvelles du gouvernement provincial depuis plusieurs mois par rapport au SCS de sa ville. « J'ai réitéré à plusieurs reprises mes appels à la province pour qu'elle engage un dialogue avec nous et avec les Calgariens sur l'avenir de ce site, ainsi que sur la manière dont elle entend soutenir de façon responsable à la fois la sécurité des communautés et les personnes aux prises avec une dépendance », indique-t-elle dans une communication écrite à la rédaction. Elle prévient toutefois que la fermeture du site sans plan de transition précis ne ferait qu'augmenter les risques pour les résidents, les entreprises et les personnes vulnérables. Adapter les soins aux réalités diverses. Selon la docteure Salvalaggio, les approches actuelles en matière de traitement de la dépendance ne tiennent pas compte des réalités vécues par les personnes les plus vulnérables. Les femmes, les personnes autochtones, les personnes enceintes, les jeunes ou les aînés ont des besoins particuliers qui nécessitent des plans de soins adaptés, dit-elle. On a tendance à proposer une seule solution pour tous, alors que certains traitements fonctionnent très bien pour certaines personnes et pas pour d'autres, observe-t-elle. Un vocabulaire controversé. Au-delà des décisions politiques, le vocabulaire employé par le gouvernement albertain pour désigner les sites de consommation supervisés illustre le fossé qui le sépare des experts en santé publique. Lorsqu'il évoque ces installations, Dan Williams parle régulièrement de centres de surdose. À ses yeux, ces lieux facilitent la dépendance et infligent du dommage aux personnes qui y ont recours plutôt que de favoriser leur guérison. Ce choix de mots est contesté, affirme Roman Close du CATI. Toutes les données dont on dispose disent le contraire. C'est ça qu'il faut retenir, souligne-t-elle. Les sites de consommation supervisés n'incitent pas à consommer. Ils permettent aux gens de le faire de manière sécuritaire, insiste-t-elle. En réaction au discours gouvernemental axé sur le rétablissement, elle souligne l'importance d'offrir un éventail de services diversifiés, adaptés aux réalités multiples des personnes qui consomment. Se concentrer uniquement sur les centres de rétablissement, affirme-t-elle, risque de laisser pour compte une partie de la population. La consommation est une réalité complexe. Les centres de rétablissement peuvent convenir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Il faut des solutions intermédiaires, accessibles dès maintenant, pour éviter que ceux qui ne sont pas prêts à entreprendre un processus de rétablissement se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes, partage-t-elle. Et si certaines alternatives peuvent contribuer à prévenir des surdoses, comme les approches virtuelles permettant à une personne de consommer sous la surveillance d'un intervenant à distance, elles ne remplacent pas les services offerts en personne. Ce n'est pas aussi efficace, affirme la docteure Ginetta Salvalaggio, qui plaide plutôt pour la réouverture des centres de consommation supervisés. C'est nécessaire, insiste-t-elle. C'était L'avenir incertain des sites de consommation supervisés, un texte de Gabriel Audet Michaud paru le 25 juin 2025 dans le Franco.
Détecter le Parkinson plus vite pour mieux le soigner. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 juin 2025 dans la presse. Des chercheurs montréalais publient cette semaine deux études sur la détection de la maladie de Parkinson. L'objectif, un traitement adéquat plus rapidement. Qu'est-ce qui a été découvert? Les deux découvertes permettront de déterminer plus rapidement si un patient est bel et bien atteint de la maladie de Parkinson pour le traiter dès que possible, et aussi d'éviter d'utiliser des traitements contre le Parkinson pour des patients qui souffrent d'autres maladies ayant des symptômes semblables. Une équipe de chercheurs du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, a constaté que, chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, des cellules immunitaires présentes dans le sang sont activées alors qu'elles ne le sont pas quand il s'agit de deux maladies aux symptômes similaires, la paralysie supranucléaire et l'atrophie multisystème. Leur étude, publiée dans la revue Brain, pourrait donc permettre de commencer le bon traitement plus tôt. Une autre équipe de l'Université de Montréal a identifié une manière de distinguer le Parkinson d'une autre maladie, la démence à corps de Lewy, à partir d'une imagerie du cerveau. Pour un malade atteint de Parkinson, le cerveau est d'abord altéré par l'intérieur, alors qu'il est altéré par l'extérieur quand il s'agit de la démence à corps de Lewy. Cette découverte a été publiée dans la revue The Lancet. Les chercheurs ne savent pas pourquoi le cerveau est affecté différemment pour les deux maladies, mais cela permet de les distinguer. En quoi cela aide-t-il le traitement des patients? Aucun médicament ne permet de guérir la maladie de Parkinson, mais il est possible de réduire ses symptômes pendant un certain temps. Le médicament qui soulage les symptômes du Parkinson n'est cependant pas utile contre les autres maladies, dit la biologiste Martine Tétrault du CHUM, auteur principal de l'étude publiée dans Brain. Sa découverte permet donc d'éviter les traitements inutiles. Dans le cas de l'imagerie cérébrale, la démence à corps de Lewy est très différente du Parkinson, mais elle est l'une des deux conséquences d'un trouble du sommeil. Chez les gens qui ont ce trouble du sommeil, où la personne vit ses rêves avec des mouvements physiques ou des paroles, 90% vont développer cette démence ou le Parkinson après 10 ou 15 ans, dit le neuropsychologue Shady Rahayel de l'Université de Montréal, auteur principal de l'étude du Lancet. Ce trouble du sommeil apparaît généralement dans la quarantaine ou la cinquantaine. Environ 1% de la population en souffre. L'intérêt de distinguer rapidement si le patient ayant ce trouble du sommeil aura le Parkinson ou la démence est de préparer les soins à venir. Shady Rahayel, neuropsychologue, dit « La démence à corps de Lewy s'accompagne d'hallucinations. C'est beaucoup plus dur pour les proches aidants, plus que l'Alzheimer, par exemple. L'Alzheimer est la démence la plus répandue, suivie en deuxième lieu de la démence à corps de Lewy. La maladie de Parkinson, elle, s'accompagne de troubles de locomotion, de préhension, motricité fine et d'élocution. La maladie évolue lentement et ne débouche sur des troubles cognitifs que dans 20% des cas, selon Parkinson Québec. Cela signifie que les proches doivent surtout aider le patient à se déplacer de manière sûre, à manipuler des objets et à se faire comprendre. Pourra-t-on un jour détecter le Parkinson avant l'apparition de symptômes? Aucun test biologique, test sanguin, imagerie médicale, n'existe pour diagnostiquer le Parkinson. On a des échelles de symptômes et le diagnostic est fait par le neurologue à partir de ces échelles, explique Mme Tétrault. Le seul examen permettant de confirmer un diagnostic de Parkinson est une autopsie du cerveau après la mort du patient. C'est pour cette raison qu'on a de la difficulté à distinguer le Parkinson d'autres maladies similaires. Donc, ces deux découvertes récentes représentent de réelles avancées. La perspective d'un diagnostic biologique, soit par l'imagerie cérébrale, soit par des analyses sanguines, sera intéressante si des médicaments permettant de guérir le Parkinson ou de ralentir sa progression sont mis sur le marché. Martine Tétrault, biologiste, dit « On espère qu'on pourra utiliser ces biosignatures immunitaires dans le sang pour mettre au point un diagnostic précoce avant l'apparition des symptômes. » Shady Rahayel estime que la biosignature par imagerie cérébrale qu'il a utilisée pourrait permettre de diagnostiquer de manière précoce le Parkinson chez des patients ayant d'autres problèmes associés à cette maladie. Il y a souvent des problèmes olfactifs ou des problèmes de constipation chronique qui surviennent bien avant les premiers symptômes moteurs du Parkinson, explique-t-il. Quelle est la prochaine étape dans ces recherches? Le neuropsychologue de l'Université de Montréal veut maintenant comprendre pourquoi le cerveau est affecté différemment par le Parkinson et par la démence à corps de Lewy, et si d'autres structures du cerveau sont aussi altérées. Cela pourrait permettre d'identifier d'autres cibles thérapeutiques. Ces travaux sont basés sur 1500 scans de cerveau de patients ayant ce trouble du sommeil et 400 personnes ne l'ayant pas dans 9 centres dans le monde, dont Sacré-Cœur au Québec. Mme Tétrault, elle, espère pouvoir trouver d'autres biosignatures dans le sang qui permettront de distinguer entre plusieurs formes de Parkinson. Il y a eu beaucoup de médicaments qui ont été testés et qui fonctionnent chez certains patients. mais on ne peut pas prédire qui va en bénéficier. Si on pouvait savoir qui va répondre au traitement, ça amènerait des médicaments. L'autre projet est de voir si les molécules immunitaires dans le sang sont toujours élevées chez les Parkinsoniens ou si elles sont simplement plus sensibles au stress. En savoir plus. Source Parkinson Québec. 24 000, nombre de Québécois atteints de la maladie de Parkinson. Source Statistique Canada. 0,8% risque d'être atteint de démence chez les 65-69 ans. 25% risque d'être atteint de démence chez les plus de 85 ans. C'était « Détecter le Parkinson plus vite pour mieux le soigner », un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 juin 2025 dans La Presse.
Les tendances générationnelles du tatouage, un texte de Stéphane Baillargeon paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir. Environ le tiers des adultes québécois sont maintenant tatoués. Cette série examine certaines caractéristiques actuelles de la massification de ce démarquage par les marquages. Premier arrêt, les tendances générationnelles, y compris par le rejet de cette mode. Comme les jeans baggy, les moustaches, la coupe Longueuil, les écouteurs avec fil et même le Blackberry, le tatouage tribal fait maintenant un grand retour. Normal. La mode n'est toujours qu'un éternel recommencement pour le meilleur et le pas si pillant. Les signes tribaux répartis sur les bras, les épaules et surtout le bas du dos, le fameux « tramp stamp » lié aux vêtements taille basse à la Britney Spears, ont connu une première période de prédilection à la fin du siècle dernier. Les motifs empruntés aux cultures traditionnelles polynésiennes ou maoris ont grandement aidé à répandre la tatoumanie dans les sociétés occidentales. La tendance a passé, comme tout le reste, dans les apparences et l'extimité. Le tribal a même ensuite eu mauvaise presse en étant associé à des pratiques d'appropriation culturelle alors que se développait le wokisme. Beaucoup ont disparu au laser ou sous de nouveaux ancrages de camouflage. Le revoilà, pourtant, ce tribal mal aimé. Dans une forme modifiée, évidemment, les styles de la modernité avancée allant toujours ou presque du néo-ceci en post-cela. Le néo-tribal, aussi appelé cyber-tribal et cyber-sigilisme, a germé depuis le début de la décennie en liant une imagerie futuriste et numérique, la calligraphie du maître Christophe Spagedel, le seigneur des logos, de l'univers rock-metal et des motifs d'inspiration clanique ou autochtone. Il y a un gros boom tribal. Cette mode revient, mais réinterprétée, confirme la tatoueuse Ève Perron, rencontrée au studio Loveless Tattoo à Montréal. Ce n'est pas redevenu le gros classique de la décennie, mais ça redéfinit une tendance. Certains clients demandent carrément le look qu'on voyait avant, mais en général, les commandes réinterprétées sont plus délicates, plus épurées. Dégénération. Environ un adulte québécois sur trois est tatoué. Tous les groupes d'âge, les hommes comme les femmes, s'y adonnent en masse. Il existe aussi des modes générationnels à l'intérieur de cette mode générale que les connaisseurs peuvent repérer comme on reconnaît à l'année près une lubie vestimentaire. Les baby boomers, 60 ans et plus, ont opté pour des images classiques, encre, prénom d'amour, drapeau ou croix, souvent facilement dissimulables près de l'épaule par exemple. Les X, 1965-1980, se reconnaissent donc au tribal 1.0 et à d'autres motifs élaborés sur des emplacements déjà plus visibles, le bas du dos, l'avant-bras, le nombril. Les millénarios, les Y, de 1980 à 1995, y vont avec des couleurs vives et des réalisations riches de grande taille bien visibles, la manche complète, le dos, le cou, parfois néo-traditionnels, parfois en référence à des icônes de la culture populaire, musique, films, jeux vidéo. Les Z, 1995-2010, préfèrent les micro-tatouages, les dessins et les écritures minimalistes, les motifs délicats souvent en ligne fine noire, visibles mais discrets, réalisés à des endroits inusités comme la main ou le pourtour de l'oreille. En plus du tribal 2.0, bien sûr. Ce minimalisme est-il l'antichambre menant à la disparition prochaine? Le tatouage est un phénomène de mode et je peux vous dire que, dans 20 ans, et c'est rare qu'on puisse faire des prédictions assurées, ce sera complètement dépassé, a dit la professeure de l'UQAM, Mariette Julien, historienne de la mode, dans une entrevue au Devoir en 2019 pour une première série précédente sur ce marquage de peau. Habituellement, l'apparence d'une génération devient anti-aphrodisiaque pour la génération suivante. On pourra donc connaître l'âge des gens au fait qu'ils ont un tatouage. Dans une vidéo virale diffusée il y a quelques semaines sur TikTok, une milléniale américaine répétait pourtant à son tour que la Gen Z serait la dernière génération tatouée et que la génération alpha allait se dire que les tatouages, c'est pour les vieux. Ces jeunes, nés depuis 2010, approchent de l'âge légal du tatouage. Selon une enquête de 2023 du Pew Research Center, 32% des Américains ont au moins un tatouage, 46% des gens de 30 à 49 ans et 41% des 18-29 ans. Pas vraiment l'apocalypse de la pratique et on verra bien si la projection rationnelle se réalise. Le in et le out. Chose certaine, la moitié des tatoués commencent leur ancrage avant 25 ans. Une fois ce seuil passé, la chance de se faire marquer diminue grandement. Léonie Bélanger, 26 ans, vit bien sans. « Je n'ai jamais trouvé la bonne ou la meilleure idée pour me faire tatouer », dit l'artiste en danse contemporaine, jointe au téléphone entre deux répétitions. « J'ai peur de regretter rapidement certains choix esthétiques ou non. » Elle ajoute qu'il ne s'agit pas du tout d'un rejet d'une habitude qui serait par définition ringarde et dépassée puisque liée aux parents et aux grands-parents. Beaucoup de personnes de ma génération et beaucoup de gens en danse sont tatoués, observe-t-elle. Claudia Honorato, diplômée en génie de 28 ans, n'a pas non plus goûté à la petite torture consentante des aiguilles. Un peu par inertie, dit-elle. Un peu parce qu'elle ne trouvait pas le dessin significatif. Un peu peut-être aussi à cause de son milieu de travail plus conservateur. Et certainement parce que la pratique peut coûter cher, quelques centaines de dollars pour un petit travail minimaliste, plusieurs milliers de dollars pour un grand travail élaboré. Beaucoup de gens dans mon entourage sont tatoués, dit Madame Honorato. Mon frère a une manche, mon beau-frère une fleur de lys. Maintenant, au stade où j'en suis, ce n'est vraiment pas une priorité. En plus, j'ai l'impression que la mode s'estompe un peu. En tout cas, les tatouages se font plus discrets. De fil en aiguille. Le premier tatouage que s'est fait faire Eve Perron chez Loveless Tattoo à la fin de ses études en architecture était d'ailleurs une petite fleur discrète sur un bras. Le studio cherchait une réceptionniste et elle se cherchait une activité en public après la période de confinement de la pandémie. Elle a été embauchée et est vite passée de l'autre bord de l'aiguille. Son apprentissage a duré un an. Elle pratique comme tatoueuse professionnelle depuis 2 années. Son collègue Marc Bonin pratique depuis une douzaine d'années. Il a choisi ce métier après des études en architecture, lui aussi, et un accident dans son premier boulot de charpentier. J'avais du temps au repos. Je me suis mis à dessiner. Son tatoueur l'a encouragé et lui a vendu sa première machine avec laquelle il se pratiquait sur les peaux de porc achetées chez le boucher. « Ça coûtait 3 piastres, » raconte-t-il. « Beaucoup de tatoueurs s'exercent encore comme ça. Mais, maintenant, il y a des tutoriels en ligne et l'information est disponible partout. Pendant la COVID, il y a eu un énorme boom de nouveaux tatoueurs qui se sont formés tout seuls avec des machines achetées sur Amazon. » Karine Morrison, fondatrice du Studio K à Montréal, ne tatoue pas. Elle et ses techniciennes, des tatous. Autre signe du zeitgeist. On en fait plein, dit-elle. Elle souligne aussi que le marché du tatouage semble saturé. Rien qu'autour de son entreprise et de Loveless Tattoo, elle a compté environ 25 boutiques. « Je connais beaucoup de tatoueurs, » dit-elle. Ils étaient incapables de satisfaire la demande après la pandémie et, maintenant, ils mangent leur bas. Dans l'économie actuelle, quand tu as à faire le choix entre l'épicerie, le loyer et le tatouage va attendre. Alf Turcotte, du studio Alf de Tattoo de Joliette, exerce depuis 1993 et ne nie pas les temps durs pour son milieu. Il continue à réaliser de grandes pièces très élaborées, des manches, des dos entièrement recouverts artistiquement, des œuvres qui coûtent cher et qui sont moins à la portée des plus jeunes. Lui-même est ancré de la tête aux pieds et il a auto-réalisé son bras gauche. On a vu des gens qui tatouaient depuis longtemps s'enligner vers un autre métier, dit-il. Pour ma part, dans la boutique, je n'ai pas ressenti une baisse de clientèle. Je vois beaucoup de têtes blanches maintenant, alors qu'avant, c'était une par année. Souvent, les plus jeunes contaminent les plus vieux qui adorent ce qu'ils voient et décident de se faire tatouer eux aussi. Un néo-tribal avec ça? Tout, partout, tout à la fois. L'intelligence artificielle ébranle le tatouage autant que tous les autres arts. Le site tattoo.ia revendique 1 million d'usagers qui auraient déjà généré environ 90 millions d'images. Il suffit d'y décrire l'image imaginée, son style, ses couleurs et, bingo, le stencil apparaît. Des futurologues du body art envisagent l'utilisation de robots tatoueurs pour la réalisation de ces dessins de plus en plus complexes, la modification d'une œuvre cinétique sur la peau en temps réel par les appareils mobiles, comme l'utilisation d'encre fluorescente ou à durée de vie utile limitée. Reste que se faire tatouer fait mal, surtout sur certaines parties du corps plus sensibles. En plus, la procédure d'ancrage peut prendre beaucoup de temps. Pour les puristes, cette réalité de la douleur répétée se retrouve au fondement de la procédure qui se mérite et se paye, y compris par la souffrance. Pour contourner cette contrainte millénaire, une solution apparue récemment fait anesthésier le client pour permettre à plusieurs artistes de la peau de le transformer d'un seul coup. Le tricheur, par rapport à la tradition, s'endort et se réveille des heures plus tard avec une œuvre d'art complète incorporée sans douleur. Le chanteur Post Malone a opté pour cette solution sous supervision médicale dans une clinique de Los Angeles. La séance de 7 heures a permis l'apparition de 4 grands ancrages. En extra, l'artiste en a profité pour subir une intervention dentaire compliquée. L'influenceur brésilien Ricardo Godoy avait aussi choisi cette option radicale pour une transformation artistique de l'intégralité de son dos. Il est mort à la mi-janvier 2025 d'un arrêt cardiaque dans un hôpital privé du sud du Brésil dès le début de la sédation et de l'intubation. Il avait 45 ans. C'était « Les tendances générationnelles du tatouage », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir.
L'industrie alimentaire tourne au naturel, un texte de Sylvain Charlebois, paru le 26 juin 2025 dans La Presse. Ni la science ni l'État ne peuvent chasser les colorants artificiels des assiettes. Cela revient aux consommateurs, et c'est tant mieux. Du rose bonbon au jus de betterave, l'industrie est en train de changer. General Mills a annoncé qu'elle retirera tous les colorants artificiels de ses produits vendus aux États-Unis. Cette déclaration survient quelques heures à peine après un engagement similaire de la part de Kraft Heinz, un autre géant de l'alimentation. Les deux entreprises se donnent 2 ans pour effectuer la transition, un échéancier réaliste, sachant que reformuler un produit alimentaire peut s'avérer aussi complexe que la conception d'un nouveau véhicule. Il faut généralement compter de 2 à 3 ans pour tester, approuver et intégrer de nouveaux ingrédients à grande échelle. Dans cette démarche, il faut saluer le caractère volontaire d'effectuer ces changements avant même l'arrivée d'une interdiction gouvernementale ou d'un décret réglementaire. Les entreprises réagissent tout simplement aux pressions du marché, des pressions enracinées dans une demande croissante pour des étiquettes simplifiées. Certains attribuent cette dynamique à l'initiative Make America Healthy Again, MAA, de Robert F. Kennedy Jr. Bien que mieux connu pour ses prises de position controversées sur la vaccination, RFK Junior défend depuis longtemps une naturalisation des systèmes alimentaires. À titre de secrétaire d'État à la Santé, il a désormais la possibilité d'influencer à la fois les politiques publiques et les perceptions collectives, accélérant ainsi le recul des ingrédients artificiels. Une partie de ce mouvement repose sur des données scientifiques. Les colorants alimentaires artificiels comme le rouge Allura AC, rouge 40, ou le jaune Tartrazine, jaune 5, autorisés par les autorités réglementaires, sont jugés sûrs en faible dose. Toutefois, des inquiétudes persistent, notamment chez les parents et les professionnels de la santé pédiatrique. Des études émergentes suggère un lien entre certains colorants et des troubles du comportement, comme l'hyperactivité chez les enfants. L'Europe a déjà imposé des exigences d'étiquetage plus strictes et favorisé les substituts naturels. L'Amérique du Nord, en revanche, reste relativement permissive. Mais, disons-le clairement, cette transition est d'abord et avant tout guidée par des considérations politiques et des impératifs d'image. Depuis des années, les consommateurs expriment un malaise au sujet des additifs artificiels. Les grandes entreprises de produits de grande consommation, comme General Mills et Kraft Heinz, ont bien compris que les attentes en matière d'étiquetage simplifié ne cadrent plus dans la marginalité. Elles deviennent la norme. Les retombées économiques pourraient s'avérer importantes. Lorsque plusieurs acteurs majeurs du secteur bougent en même temps, l'économie des colorants naturels ne peut faire autrement que de se transformer rapidement. À ce jour, des substituts comme le jus de betterave, le curcuma ou l'extrait de carotte coûte plus cher et offre moins de stabilité que les colorants synthétiques. Mais avec la montée en flèche de la demande et l'adaptation des chaînes d'approvisionnement, ces coûts pourraient rapidement diminuer. Et surtout, lorsque l'ensemble du marché évolue simultanément, les règles du jeu deviennent équitables, La crainte de perdre des parts au profit d'un concurrent misant sur des couleurs artificielles s'estompe. Le Canada en ressentira inévitablement les répercussions. De nombreux produits sur les tablettes canadiennes proviennent d'usines américaines. Il est peu probable que les fabricants maintiennent des formulations distinctes pour un marché aussi modeste que le nôtre. Par conséquent, les consommateurs canadiens verront davantage de produits sans colorants artificiels, et ce, indépendamment des décisions d'Ottawa. Cela dit, Santé Canada pourrait décider d'intervenir. Les fabricants canadiens qui exportent vers les États-Unis devront se conformer à ces nouvelles normes implicites si les détaillants américains commencent à éliminer les produits contenant des colorants artificiels. Le Canada encadre déjà l'utilisation de ces colorants par des limites de dosage et des exigences d'étiquetage, mais l'opinion publique devient beaucoup plus sensible à la question. Pour les consommateurs d'ici, qui espèrent la disparition des colorants artificiels dans leur assiette, le changement est imminent. Et fort heureusement, cette transition, menée par l'industrie elle-même, ne devrait pas entraîner une hausse des prix alimentaires. Elle pourrait même favoriser une plus grande transparence, stimuler l'innovation et encourager des choix plus sains, sans alourdir la facture d'épicerie. C'était « L'industrie alimentaire tourne au naturel », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 26 juin 2025 dans La Presse.
Un locataire québécois sur trois a considéré l'achat d'une propriété. Un texte de La Presse canadienne, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. Les résultats d'un sondage suggèrent que près d'un locataire québécois sur trois a considéré l'achat d'une propriété avant de signer ou de renouveler son bail. Selon l'entreprise immobilière Royal Lepage, qui a commandé cette étude publiée fin juin 2025, cela montre que les barrières d'accès à la propriété demeurent bien présentes dans un contexte de hausse du coût de la vie. Le sondage, effectué en ligne par Burson pendant la première semaine de juin, a récolté les réponses de 878 locataires québécois et de 1854 Canadiens sur leurs intentions de devenir propriétaires. Parmi les 31% de répondants québécois qui ont déclaré avoir envisagé l'achat d'une résidence, nombreux sont ceux qui veulent attendre une baisse des prix des propriétés, 37%, et ou une diminution des taux d'intérêt, 27%, tandis que plus du quart précise que la location leur permet d'épargner pour une mise de fonds. Les personnes sondées au Québec indiquent d'ailleurs avoir moins dû faire de sacrifices financiers pour payer leur loyer que celle du reste du Canada. Quelques 40% précisent n'avoir fait aucun sacrifice contre 26% en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. Dans le même ordre d'idées, alors que 15% des Canadiens utilisent plus de la moitié de leur revenu net pour payer leur loyer, ils sont 8% à faire de même au Québec. Royal Lepage rappelle que le loyer mensuel moyen se chiffrait à 1 703 $ en mai pour un appartement d'une chambre, en baisse de 1% d'une année sur l'autre dans la province. Protection des locataires. Néanmoins, les locataires québécois sondés souhaitent davantage de mesures pour améliorer l'abordabilité des loyers, comme la construction de logements abordables, 58 % ou la protection contre les évictions et les hausses de loyers abusives, 53 %. Ils sont aussi 39 % à réclamer un meilleur encadrement des loyers, ce qui montre une certaine insatisfaction envers les politiques provinciales actuelles jugées insuffisantes, selon Royal Lepage. La courtière immobilière Aline Zafirian de Royal Lepage Village à Montréal insiste sur la nécessité d'un juste équilibre. Dans un communiqué, elle affirme qu'il est nécessaire de maintenir des protections pour les locataires tout en permettant aux propriétaires de gérer leurs investissements. Je vois chaque jour l'impact de ces politiques sur les décisions des propriétaires comme des locataires, et il est clair qu'une révision continue de ces mesures sera nécessaire pour garantir un marché locatif dynamique et durable, ajoute-t-elle. Madame Zafirian observe que le marché locatif est en pleine transformation. Dans la conjoncture économique, marquée par un ralentissement des ventes résidentielles, de nombreux projets résidentiels sont forcés de se réorienter vers le locatif. Avec l'augmentation de l'offre, les locataires pourraient ainsi voir leur pouvoir de négociation accru, dit-elle. Quant au désir de devenir propriétaire un jour, il subsiste chez 56 % des locataires québécois sondés. Pour ceux qui ne l'envisagent pas, les ressources financières demeurent le frein pour la moitié d'entre eux, alors que leurs revenus ne leur permettraient pas d'acheter dans le quartier désiré, estime-t-il. Pour plusieurs ménages, l'achat d'une propriété reste l'un des meilleurs moyens de bâtir de la valeur à long terme et de sécuriser son avenir financier, rappelle Mme Zafirian. C'était un locataire québécois sur trois à considérer l'achat d'une propriété. Un texte de la presse canadienne paru le 19 juin 2023 dans Le Devoir.
Le Dédale Victor Lévy Beaulieu, un texte de Catherine Lalonde paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir. L'œuvre de Victor Lévy Beaulieu, décédé dans la nuit du dimanche 8 juin 2025, est colossale, démesurée. Une œuvre d'une masse énorme, comme l'a écrit Jacques Pelletier en 2003 dans Victor Lévy Beaulieu. Un continent à explorer, faite de centaines de milliers de pages, romans, textes dramatiques, essais critiques et polémiques, téléfeuilletons, témoignages, chroniques, dont des chroniques télé dans Le Devoir, poèmes, un grand legs littéraire plein de détours et de dédales où on peut se perdre avec frayeur, excitation, parfois les deux. Comment parler de cette œuvre? Par où commencer à la lire? Des spécialistes déroulent leur fil d'Ariane. Je crois que la chose la plus riche de l'œuvre de Beaulieu, c'est son espèce de déclaration d'indépendance linguistique, estime Michel Narrault, professeur au cégep Édouard Montpetit. Victor Lévy Beaulieu se donne toutes les libertés, poursuit l'auteur Kev Lambert. C'est un écrivain qui démolit la syntaxe pour la faire sienne, et il refait la langue avec ce style cannibale qui utilise tout. Le français précieux, l'oralité, la vulgarité, les archaïsmes, des expressions datées, des néologismes, continue Karine Rossou, autrice et enseignante à l'UQAM. VLB n'est pas dans le réalisme, mais dans l'hyperbole, l'exagération. Ses écrits ont quelque chose de carnavalesque, de rabelaisien, dans la violence allégorique. Chez lui, on n'est ni dans la transparence de la langue, ni dans l'intimité. Et comme un ogre comme ce lecteur boulimique que Beaulieu était, il intègre tout dans sa démesure, ses lectures, son admiration pour les grands auteurs, Joyce, Melville, Voltaire, Nietzsche, des Québécois comme Aquin, Ferron, Miron, Thériault, sa connaissance des auteurs latino-américains, peu lus ici à l'époque, du réalisme magique. Il dévore, s'approprie, analyse Madame Rousseau, et parfois, c'est plus ou moins digéré, et il rend et il reste de gros morceaux. Ce n'est pas une œuvre parfaite, c'est ce que j'aime, elle est pleine d'aspérité. Trouver le centre du motif. Pour Michel Narreau, la plus grande difficulté, si l'on veut aborder l'œuvre de VLB, c'est de trouver par où commencer. Son écriture semble faite d'une seule coulée, du début à la fin, de 1967 à 2025. Faulkner disait qu'il faut créer un monde si vaste qu'on ne peut pas s'y perdre, qui englobe tout, en quelque sorte. C'est une des prétentions de Beaulieu de faire ça. Et c'est ce qui peut être chaotique pour le lecteur qui embarque en route. Il y a de grands cycles, comme la vraie saga des Beauchemin. Commencé par Race de monde, en 1969, sur la migration des Beauchemin de Trois-Pistoles au Grand Montréal, elle se poursuit sur 8 tomes qui suivent cette famille d'avant la pilule, avec ses 16 enfants, comme le dit M. Narreau. L'épopée se termine en 2011 avec Antiterre. Vient ensuite le cycle des voyageries, sur le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Mais pour Michel Narreau, aussi membre du comité de rédaction de la revue Liberté, même si l'œuvre change constamment de forme, elle s'attache toujours à une visée centrale tout au long, chercher à faire surgir un imaginaire souverain. On dit « Monsieur ». 2 grands livres sont des sommets inégalés de la littérature québécoise et sont signés VLB, selon Michel Narreau. Ce sont « Monsieur Melville », 1978, en 3 tomes, et « Don Quichotte de la Démanche », 1974. Karine Rousseau et Kev Lambert ont également nommé M. Melville comme Pierre Marquante. Mais pour entrer en VLB, il faut plutôt lire « L'héritage », 1987, suggère Karine Rousseau. C'est un immense roman, littéralement, c'est une grosse brique, et c'est une saga sur plusieurs générations, dans le Québec profond. Moi, avec mes parents immigrants, c'est grâce à Beaulieu que je connais ce Québec-là, marqué par l'inceste et l'incommunicabilité entre les générations. C'est accessible, avec un vrai début et une vraie fin. Michel Narreau propose plutôt « Race de monde » comme foyer d'où partir. Ça campe le monde des Beauchemin et cet alter ego de VLB qu'est le personnage d'écrivain d'Abel Beauchemin. La littérature, il la faisait entrer dans la vie, souligne Madame Rousseau, et il le faisait aussi en mettant en scène des littéraires, autant dans ses romans que dans ses téléromans, genre d'émission où on est moins habitué à entendre des personnages citer Proust. Dans Race de monde, on est déjà dans l'aliénation liée aux colonisés québécois, un des points de départ de l'écriture de VLB. On est dans l'œuvre avant que sa parole trouve son extension la plus libre, si on veut. Et parfois, c'est un peu plus facile quand c'est moins libre, dit Michel Narreau en souriant. Et parmi leurs VLB préférés à eux, les 3 spécialistes ont nommé Joe Connaissant, 1970, Les Grands-Pères, 1971, N'évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre Abel, 1976. Le retour de notre refoulé. VLB suspend parfois ses phrases sans point ou les poursuit éternellement dans un flux d'inconscience vers le plus profond, le plus traumatique, le plus sale de ses personnages et de la psyché québécoise. Ses livres sont un gros retour du refoulé, continue Kev Lambert, qui a reçu le prix Médicis 2023. Il a travaillé le fantasme avec une exigence de pouvoir et d'outrance, croit Michel Narrault, jusqu'à se complaire parfois dans la scatologie, le vulgaire, la sexualité, l'inceste. Ça revient dans presque tous ses livres, pour atteindre une zone de liberté, une souveraineté de l'imaginaire. Pour ça, il faut qu'il passe à travers tous les tabous possibles et imaginables, à travers des pages et des pages, des fois de fantasmes de meurtre, de violence sexuelle, pour aller enfin au-delà. Et ce qui est dur pour notre regard de lecteur d'aujourd'hui, c'est qu'il le fait à partir d'un imaginaire mâle. Ses références littéraires, les auteurs qu'il travaille et cite, les personnages qu'il met en scène sont un monde masculin avec sa fantasmagorie patriarcale. Derrière ça, on voit une volonté d'émancipation, quelque chose qui mène au-delà de ce côté patriarcal, croit le professeur. VLB a été un écrivain autodidacte qui s'est aussi édité lui-même presque toute sa carrière, rappelle M. Narrault, qui voit là un désir de ne pas être formaté par un regard extérieur qui viendrait changer l'écriture. Ça lui donnait un espace de liberté dans l'écriture, une manière d'envisager la langue. Le monde depuis Trois pistoles. VLB a placé Trois pistoles comme si c'était le méridien de Greenwich littéraire, indique Michel Narrault, comme le centre du monde de la littérature. Comme s'il disait, à partir de Trois pistoles, je peux être Joyce, je peux être Melville, je peux être Rabelais, je peux être Kerouac, je peux être Victor Hugo. Il voyait à travers le fleuve l'idée du transit, du passage, la métamorphose, la possibilité d'aller ailleurs. Ça faisait du fleuve l'incarnation de la liberté au Québec. De là, il a réussi à créer un imaginaire américain qui englobait vraiment le continent. Et de là, il pose des personnages à la fois sédentaires et capables de s'échapper, ne serait-ce que par l'imaginaire, des figures qui sont capables d'imaginer d'autres mondes, de penser un ailleurs pour le Québec, quelque chose de plus grand. Il a réussi à faire du Québec un imaginaire de la métamorphose et du changement. À nous de le lire et d'imaginer les suites. C'était Le Dédale Victor Lévy Beaulieu, un texte de Catherine Lalonde paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir.